Angelina, que é tudo bem-vinda.
Bonjour à tous.
Alison Weir. Albert Algou.
Bravo, Daniel. Bravo, Daniel.
Notre invité de la Comédie Française, Michel Villamont.
Michel.
Soyez le bienvenu, Michel. Vous avez d'autant plus de mérite. Ouais, j'avais envie de crier aussi.
Ouais.
Non, mais vous êtes à une
table
dans
de
un
cinglés.
Studio. Ouais, de fans. Moi, je.
De grands fans.
On vous aime et on c'est est gentil, ravis vous que gentil, vous ayez vous la gentil. Gentillesse de venir. D'autant que on peut pas dire que vous ayez beaucoup de temps libre en ce moment entre toutes les pièces et tous les projets que vous.
Cumula.
Oui, un peu. Il cumule, mais surtout et physiquement, c'est très éprouvant.
Entre les mains de Bayrou bientôt.
On va.
ça va faire mal.
Il faut déjà qu'il passe entre les siennes. Mais ça, on va en parler plus tard. D'abord, pour Michel Villermoz, j'espère, maréchal, que vous avez compris pourquoi il était notre invité.
Ce que je sais, mon cher Nagui, c'est que votre question reflète votre propre fourberie ou un début d'Alzheimer, puisque pas plus tard que tout à l'heure. Nagui, alors que de loin vous adressiez un signe aussi amical que focus à Michel Villermoz. Salut. Je vous ai entendu marmonner entre vos dents à GNB, notre actuel rédac-chef et imminent salarié de Pôle emploi. Putain, je rêve. Dans l'hôtel du libre-échange, il y a 18 comédiens et comédiennes, sans compter les figurants, et t'as encore invité Michel Villermoz. Il va finir par se croire chez lui, le vieux moustachu. D'un autre côté, je reconnais que c'est pratique parce que je suis très fort pour recycler les questions qui ont déjà été posées 36 fois et même à d'autres comédiens. En revanche, je compte vraiment sur le pitch de Ganache pour lancer l'interview sur le fond. Vos désirs étant désordre, mon cher Nagui, je m'exécute. L'hôtel du libre-échange,
en fait,
c'est un établissement où se manigancent de drôles de troc et de drôles de trucs, sans oublier, je vous le dis tout à trac, la trique qu'a votre personnage, Michel Villermoz, en présence de Marcel, la femme de Paillardin. Voilà. Ça, c'est du pitch.
Ah, ça, c'est du pitch. Hein,
c'est du concis et du synthétique.
Sans trac.
Bien sûr. J'ai beaucoup ri en voyant cette pièce complètement folle et beaucoup plus profonde qu'il n'y paraît. Mais en même temps, j'ai eu un pincement au cœur en repensant à un hôtel où moi aussi, jadis, je connus de sacrés émois échangistes. Respectez mon passé. C'était en 1943, à Vichy, à l'hôtel du Parc, où avec mon épouse Edmond, dite la maréchale, j'avais été invité pour fêter le 87e anniversaire du maréchal Pétain. Alors qu'il s'apprête à postillonner sur les bougies et sur le gâteau, une forêt noire, les lumières s'éteignent.
Évidemment.
On croit tous que c'est exprès. En fait, des résistants avaient fait sauter la centrale électrique. Force est alors de regagner nos chambres à tâtons. Une fois, nu, dans mon lit, je me plaque contre la maréchale qui me tourne le dos en ronflant déjà comme une traction à gazogène. Alors, encore émoustillé par la champagne, je déclenche sur ses arrières un tir de mortier peu conforme aux lois de la guerre en dentelle, si vous voyez ce que je veux dire. Puis, je m'endors sur la viande. Au petit matin,
la classe.
Au petit matin, quand j'ouvre les yeux, le maréchal Pétain est penché sur moi et il me murmure. « Ganache, merci pour ce moment. Décidément, j'ai fait don de toute ma personne à la France, même de mon cul. »
C'est merci au ciel.
Mais
eh oui,
quelle invitation.
Oui. J'avais dormi par erreur dans le lit du maréchal Pétain, un véritable quiproquo à la Fedo. Bonne émission.
Merci, maréchal Ganache.
La bande originale, Nagui, sur France Inter.
Oui, c'est du Fedo, l'hôtel du libre-échange, qui est une pièce culte, une référence chez Fedo. Comme ça, il y a quelques pièces comme Le fil à la patte. Enfin, il y a des évidences. Oui, les évidences dans l'écriture de Fedo est moins évident, Michel, dans la programmation de la Comédie Française. C'est la première fois.
Oui, c'est la première fois. Je sais pas pour quelle raison. Je pense que peut-être parce que dans le dispositif scénique, il est compliqué,
oula,
avec cet hôtel, ouais, au deuxième acte à mettre en place dans un théâtre à l'italienne comme ça, pour que le spectateur voit à peu près tout ce qui se passe dans les chambres. Aussi en raison peut-être de la distribution qui est copieuse. C'est pas une pièce qui a été montée, c'est vrai. Il fallait qu'Isabelle ait cette idée.
Éric Ruff, l'administrateur général de la Comédie Française, a dit « Il y a dans le répertoire de la Comédie Française nombre de pièces qui n'ont pas survécu à leur temps, et c'est justice, mais aussi de curieuses absences, comme l'hôtel du libre-échange. »
Oui, ça en fait partie, je crois. Oui, c'est vrai, quand on voit la pièce, quand on a le plaisir qu'on a pris à monter ce spectacle, on peut se demander pourquoi ça n'a pas été fait avant, depuis un siècle. Mais je pense que c'est peut-être pour ces raisons, parce que c'est vrai qu'il faut trouver, là, ces quatre filles du docteur Mathieu.
Hystérique.
Trouver quatre jeunes femmes, c'est pas si simple à monter.
Et c'est Isabelle Nanty qui a eu l'idée, qui l'a proposée, ou c'est à l'inverse
C'est à l'inverse, Éric Ruff qui l'a proposé à Isabelle Nanty. Ouais.
Donc finalement, c'est une bonne nouvelle que cette pièce ait disparu du répertoire. Comme ça, Isabelle Nanty a pu venir s'en emparer et proposer ce spectacle.
Ouais. Tu veux dire, sinon elle aurait pas pu, c'est ça que
Non,
tu veux...
je dis que simplement là, tout d'un coup, ça ouais. permet de mettre en lumière ce texte, de le remettre à entendre sur scène. Et que c'est un spectacle vraiment, Michel, qui est merveilleux.
Non, merci. Ouais, merci. Non, plaisir, ouais.
Extrêmement rythmé, sûrement fatigant et éprouvant, j'imagine, parce que c'est 2h30 où vous êtes pratiquement tout le temps en scène. Vous n'avez pas de moment de répit, ouais. sauf les quelques respirations, didascalies, changement de décor peut-être avec le Laurent Lafitte qui vient chanter.
Oui, qui vient chanter, ouais.
qui vient chanter.
Meneur de revue, ouais, qui est très bien, ouais,
c'est
qui
ça.
Est formidable.
Ouais.
Un bon tenancier
et
de
chansons,
bar.
Chansons à texte, quoi. Ouais. Les chansons qui racontent. Des histoires et qui chansons d'hôtel, je sais pas si ça c'est une tradition les chansons d'hôtel.
Non, je disais qu'il était un bon tenancier d'hôtel dans ce rôle.
Oui, parce qu'il ne fait pas que chanter, il joue également dans la pièce, mais il chante, il danse, il harangue la foule. C'est, il a un petit côté chauffeur de salle aussi. Et il est extrêmement brillant dans ce casting. L'hôtel du libre-échange, il est sur deux. Il y a beaucoup de décors, il y a beaucoup de niveaux aussi dans tous les sens du terme, puisque déjà il y a beaucoup de niveaux dans le sens de la hauteur pour ce qui est du décor, et puis dans le sens de ce que disait Albert Algou, on n'y voit pas que de la légèreté.
Ah oui, il n'y a pas que de la légèreté. Bon, c'est le cas dans pratiquement toutes les pièces de Feydeau, parce que derrière la satire de la bourgeoisie, de ses mœurs hypocrites, il y a une certaine noirceur, même un désespoir, ou moi je dirais de l'humour noir. Et c'est ce qui fait la richesse des textes de Feydeau,
oui,
donc, dans
fait,
celui-là.
Tout à fait, oui, c'est le grand théâtre de l'inconscient. Feydeau. Voilà, au-delà du vaudeville, ces personnages sont plongés dans leur désir, dans leur non-dit, dans leur désir sexuel.
Feydeau,
puissant.
Ouais, ouais.
Et puis cette noirceur aussi, ouais, propre à Feydeau, mais qui n'est pas encore trop apparente dans l'Hôtel du Libre-Échange, c'est plus dans les pièces plus tard.
Ça s'accentue
peu,
après.
Parce que c'est un homme qui est une vraie star, Feydeau. Mais
on va rappeler le principe déjà de l'histoire. Vous êtes un bourgeois.
Pinglet.
Oui, un notable bourgeois, entrepreneur, marié, sans enfant, depuis 20 ans avec sa femme.
Et qui n'a pas trop d'épanouissement sexuel avec sa femme.
Non, puis 20 ans de vie commune. Voilà, donc une certaine.
C'est
bien sûr, non, mais pour lui, pour Pinglet, mais pour Pinglet, une certaine lassitude. Et puis c'est surtout, le désir pour cette femme, la femme de son meilleur ami Paillardin.
Marcel,
ouais, qui elle est laissée de côté, un peu en friche, au rancard, par son mari.
Et qui est très lucide sur elle-même d'ailleurs, parce que c'est elle qui se plaint de cette.
Oui,
ce côté jachère.
Oui. Qui n'est pas honoré comme
elle mérite de l'être, jouée par Florence
Viala, qui est magnifique. Donc voilà.
Et donc il est quand même pris entre deux feux. Déjà, c'est la femme de son copain, donc c'est très gênant. Il cherche toutes les excuses possibles et imaginables en disant
venge-toi.
Si ce mari lui est infidèle, à ce moment-là, il faut se venger.
Il faut un consolateur.
Je suis là.
J'adore l'expression.
Un consolateur. Voilà, et je serai là. Moi, je serai là en tant que consolateur, mais c'est presque
comme s'il se sacrifie.
Oui, c'est ça. C'est presque un problème moral plus que. Qu'un désir de Pinglet, il s'agit de l'honneur d'une femme qui est bafouée, donc on va essayer de réparer la chose, et je vous propose une nuit à l'hôtel du Libre-Échange.
Et souvent, les plus ridicules chez Feydeau, ce sont les hommes, hein, faut pas oublier.
Oui.
Les hommes sont malmenés, parce que souvent on l'a taxé de misogynie, mais c'est pas du tout vrai. Les hommes en prennent plein la tronche.
Oui.
Et ils sont dans tous les sens du terme, d'ailleurs.
Ah, oui,
physiquement
oui,
aussi. Et dans cet hôtel du Libre-Échange, où se passe une grande partie de la pièce.
L'acte 2.
Oui, mais en termes de durée, j'ai l'impression quand même que c'est.
C'est le plus long moment,
plus
oui,
long
bien
moment
sûr. Oui.
Où se passent là toutes les rencontres possibles, imaginables, toutes les ouvertures et claquements de portes vraiment à la Feydeau. C'est comme la rumeur ou la réputation le dit, c'est-à-dire que le nombre de portes claquées, clairement écrites et décrites par Feydeau à l'écriture déjà.
On en a rajouté. Oui, Feydeau écrit tout, absolument tout. Au-delà du texte, il y a toutes les didascalies,
les intentions.
Les intentions
et c'est
les
des pages entières, hein. C'est incroyable.
Oui,
c'est
donné pour chaque réplique. Il a mâché le travail, il a travaillé énormément. C'était un des premiers metteurs en scène, même Feydeau, donc qui avait une conscience de son texte organique. qui travaillait chez lui en jouant tous les personnages. Tout est absolument noté. La difficulté, c'est d'essayer de suivre ça, parce qu'on se dit bon bah on n'a qu'à suivre, il faut essayer de suivre, c'est un théâtre assez exigeant pour ça et qui demande une grande précision, et les quelques fois où on a essayé de faire les malins avec Isabelle, se dire bon c'est écrit, on va essayer de faire autrement, on va changer, il y a un retour de bâton en général assez violent parce que ça ne devient plus drôle, la situation où le dialogue tombe à plat, ça marche pas. Fedo a tout écrit, a tout pensé, c'est un auteur de génie, hein. c'est absolument génial à chaque seconde, dans ce qui est dit comme ça apparemment, et puis dans tout ce théâtre de l'inconscient, tout ce qui se dit à un moment où c'est le début de la psychanalyse, c'est étourdissant ce qui...
Et comment travaille alors Isabelle Nanty dans ce carcan finalement, si c'est possible?
C'est pas facile pour Isabelle, je crois, parce qu'Isabelle, elle a un cœur énorme, elle est d'une générosité incroyable, elle nous laissait libre un petit peu d'essayer d'inventer, de respecter les personnalités de chacun, le processus de création.
Mais quoi inventer à ce moment-là?
Ben voilà, c'est toute la difficulté. C'est-à-dire qu'elle se sentait dépossédée. Des fois de se dire si vous n'avez pas besoin de moi, alors s'il faut monter ce que dit Fedo, elle est justement tout le travail, c'est d'essayer, il y a un travail un peu de détective assez labyrinthique comme ça, d'essayer de retrouver pourquoi Fedo il a mis un point d'exclamation là, pourquoi il a mis trois points de suspension, et si on fait un point à la place d'un point d'exclamation, tout à coup la réplique marche moins, c'est moins efficace, si c'est pas dit là à l'avant-scène jardin, ça marche moins,
c'est implacable.
Parce que Fedo y a pensé vraiment. Alors ça n'a pas empêché qu'on a pu inventer. Christian Reck s'amuse comme un fou et il est formidable. C'est la difficulté, c'est ce travail de funambule un peu qu'il y a entre la précision, le respect de la partition, la justesse et puis en même temps le un peu plus pour arriver à cette dimension de farce de vaudeville. Mais le un peu plus, faut pas se dire dès le début ils sont fous, on va y aller, on monte sur la table, on fait n'importe quoi. C'est toute la difficulté, la folie, elle vient ou elle vient pas.
Christian Reck jouant le rôle de
Mathieu qui ne bégaye que quand il pleut.
Il est avocat.
Formidable.
C'est un avocat qui bégaye.
Ce qui est embêtant pour les années pluvieuses.
Il est formidable.
Et donc,
il y a du moment où il y avait il y avait du Galabru aussi par moment dans son exposition, mais surtout il y a du Christian Reck, quoi.
Il est formidable.
C'est
incroyable ce qu'il fait.
Quels que soient les rôles, que ce soit comique ou dramatique.
Formidable. Il a physiquement, c'est hallucinant ce qu'il fait. Faut surtout pas aller sur son terrain.
Et puis ça se passe à la Comédie-Française. C'est-à-dire que cette pièce-là, mythique, il faut absolument avoir vu une fois dans sa vie l'Hôtel du Libre-Échange de Fedo. En plus, avec la troupe et les comédiens aussi brillants que vous, la mise en scène d'Isabelle Nanty, que nous recevrons d'ailleurs pour un film. Ça sera le 27 juin prochain qu'elle viendra.
Mon Poussin.
Pour Mon Poussin, c'est ça, à ce micro. Mais on lui reparlera de la mise en scène de cet Hôtel du Libre-Échange. Et puis il y a le lieu. C'est-à-dire, il y a ce théâtre, cette acoustique, ce confort. Je précise le confort parce que c'est vrai que les fauteuils de la Comédie-Française
sont confortables.
Sont quand même pas les mêmes.
Important.
Oui,
ils supportent 2h30. Voilà.
Non, mais c'est vrai qu'il y a certains théâtres, ça peut se comprendre aussi.
On a les genoux dans le voisin.
Oui, c'est ça. Oui, faut pas avoir des jambes trop longues.
Et le public, il faut le dire aussi, le public du français est pas forcément un public toujours très rieur. Et là, sur une pièce comme ça, dès la première seconde, tout de suite, vous emportez absolument toute la salle, puisque c'est vous qui commencez seul en scène.
C'est la force de Fedo, ça. C'est du caviar pour Pinglet, l'ouverture de pain.
Mais il faut le tenir quand même, Michel Villermoz. Et là, vous nous prenez avec vous tout de suite. Et puis, on a parlé de la scénographie, on n'a pas parlé des costumes de Christian Lacroix.
Alors, et le décor.
Vous êtes d'une élégance, élégance extraordinaire. Alors, on parlait tout à l'heure avec Albert de la satire de la société, et on se rend compte que finalement, l'habit qui est très important dans les vices importe peu, puisque vous les avez tous en partage, quel que soit votre niveau dans cette société qui est représentée dans la pièce. Et vous êtes d'une élégance rare.
Ah ouais, mais costume de Christian Lacroix, moi j'ai un costume, c'est vrai, particulièrement élégant.
Ah ouais.
Il a très influencé, comme on le sait, Christian Lacroix, ou on le sait pas d'ailleurs, par la tauromachie. Beaucoup, donc j'ai un costume un peu torero, quelque chose de très très près du corps, où tout en bon point, et peut être assez fatal.
On voit rien. Mais vous êtes en maîtrise.
Ouais. Oui. Non, mais c'est les limites. Ouais. Le pantalon, c'est presque limite corset. Très, très tenu. Oui, puis la tête.
Très haute.
Très, très haute.
Très élégant.
Et pourtant, il y a une réplique. Vous êtes très beau dans ce costume, mais il y a une réplique géniale de Marcel qui vous dit à un moment: « Ah, Pinglet, vous êtes laid, mais vous savez parler au cœur des femmes.
» C'est génial. Merci, Marcel.
Ce qui est fort, c'est que dès que vous entendez une réplique, vous savez exactement la suivante. Vous l'avez totalement en tête.
Oui, bah oui, vaut mieux.
La totalité du texte, non, mais c'est fou.
Pas la totalité, mais au moins les répliques précédentes et futures de mes camarades, de mes partenaires. Ouais, vaut mieux.
À ce propos, je pourrais dire que la mémoire revient quand tu es en situation, quand on est dans le flux de l'histoire. Mais là, c'est
pas évident.
C'est admirable. Georges Feydeau, le texte est publié aux éditions de l'Arche pour ceux qui ont envie de le lire, parce que ça se lit aussi.
Ça se lit avec bonheur, avec plaisir.
C'est aussi du théâtre de fauteuil.
On visualise tout à sa façon.
Cette pièce, alors il y a une représentation spéciale qui aura lieu le 14 juillet. Elle est spéciale parce que, un, elle est à 14h, deux, entièrement gratuite.
Ouais.
C'est une tradition de la Comédie française.
Absolument, ouais, depuis très longtemps. C'est les 840 premiers qui rentrent.
Puisqu'il y a 840 places.
Et pas de réservation.
Oui, c'est ça. Pas de réservation.
C'est vrai qu'il y a des bagarres.
Au casting de cette pièce, donc, il y a Anne Kessler, Bruno Raffaelli, Alain Langlais, Florence Viala, Jérôme Pouli, Christian Haeck, dont on a parlé, Laurent Lafitte, dont on a parlé, Rebecca Marder, Pauline Clément, Julien Frisson aussi, le neveu qui évolue. Hein, il a deux personnages.
Il découvre la vie.
Il découvre, c'est ça. Je savais pas comment.
Oui, il est déniaisé.
Et Bakary Sangaré aussi.
Et Bakary, oui. Sangaré qui est formidable.
Ouais, Et tout ça avec une mise en scène d'Isabelle Nanty et décors et costumes de Christian Lacroix. C'est à la Comédie Française. Vos oreilles ont sifflé quand on vous annonçait la venue de Michel Villermoz.
Oui, et quand je pense à vous, Michel Villermoz, je pense à beaucoup de films, notamment au Créateur, que j'adore particulièrement, et aussi à ce film-ci.
Vasovinia.
Ok.
Vasovinia.
Parfois, je me demande s'ils vous comprennent quand vous parlez portugais.
C'est une question d'accent. Il y a la révolution au Portugal.
Depuis cette nuit. Vous écoutez jamais la radio, vous autres?
Les grandes ondes.
J'ai envoyé des pros, ils sont partis de Lausanne, ils arriveront demain soir à Lisbonne.
Des pros? Et nous, on est quoi?
Voilà, un extrait des Grandes Ondes, un film qui raconte le périple d'une équipe de reporters radio suisse au Portugal en avril 74, qui sont partis réaliser un reportage sur l'entraide suisse dans ce pays. Il y a plusieurs personnages, Bob, le technicien, Julie la féministe, interprétée par Valérie Donzelli, et vous, Covin, le reporter de guerre roublard, on va le dire ainsi. Mais rien ne se passe comme prévu, puisque vous vous retrouvez en pleine révolution des œillets. C'est un film derrière cette comédie qui raconte un journalisme à l'opposé de ce qu'on peut connaître aujourd'hui sur les chaînes info et qui revient sur une autre période. C'était important ce côté politique du film, une période où l'Europe était différente, encore humaine.
Oui.
Baigné par en tout cas un idéal d'humanité et d'humanisme. Ce côté politique là dans le choix du film, c'était quelque chose d'important pour vous, Michel Villermoz?
Moi j'ai adoré ce rôle, enfin la rencontre avec Lionel Bayer, le réalisateur. C'est un film assez politique. Oui, je m'étais inspiré d'un grand journaliste, c'était Kapuscinski, un journaliste polonais. Où c'était vraiment le journalisme tel qu'on peut le rêver peut-être quand on commence des écoles de journalisme comme ça, partir avec son micro et sur les terres du monde et enquêter. Voilà peut-être un journalisme qui a tendance à disparaître, qui est plus dans la parole et le commentaire d'une actualité pas forcément toujours passionnante.
Et dans le buzz, plus que dans le...
Ouais,
le fond,
c'est ça, dans le spectacle, on va dire. Ouais. Voilà, une société de spectacle dont le journalisme est aussi victime. Moi, j'ai adoré ce rôle-là. Oui, sur une Europe, 74, une Europe encore possible, un rêve d'Europe, en tout cas, un rêve d'unité. Voilà, c'est pas forcément le résultat escompté, mais... Bon, j'adorais moi faire ce film.
Dans la dimension symbolique, dans le message aussi que ça envoie, j'imagine que là aussi il y a une portée qui est importante. On a parlé avec Feydeau de la satire de la société, même si le rire l'emporte malgré tout. Là encore, j'ai la sensation que dans vos choix de films, il y a toujours une petite portée en fond, quelque chose sur le
un message, tu veux dire?
Ouais, j'ai la sensation qu'il y a quelque chose, un engagement qui ne se dit pas.
C'est plus l'engagement de Lionel Bayer par rapport à ce film, à ce scénario original pendant la révolution des œillets ou encore des utopies comme ça, cette révolution de 74 qui fait deux morts, hein, je crois, ou trois morts.
Ouais,
une prise de pouvoir, un renversement du pouvoir qui se fait dans une grande douceur quand même. Et avec l'idée de l'utopie quand même en Corse, est-ce que c'est encore aujourd'hui valable? Je sais pas. Enfin voilà, mais je voudrais éviter. Moi, dans mes choix encore, j'aime bien quand il y a ces utopies possibles. En tout cas, éviter tout cynisme. Voilà sur la société, sur ce qu'on vit un peu tous les jours. Essayer de revenir plutôt à des rêves d'enfant qu'à une critique souvent un peu trop cynique, je trouve.
Il y a aussi une critique un peu cynique dans l'Hôtel du Libre-Échange. Hein. Les travers humains sont montrés.
C'est d'une grande lucidité. C'est d'une grande lucidité sur le couple. Après, Fedot pousse le trait pour arriver à faire un vaudeville, à trouver cette forme comique extrêmement puissante. Mais le trait est assez juste et la pièce est extrêmement moderne sur le rapport du couple, sur la société, sur l'expérience des minorités. Pour Pinglet, vous vous rendez compte que cet homme qui est hétérosexuel, bourgeois, qui gagne bien sa vie et qui est marié, va se retrouver dans un hôtel borgne, sodomisé par un noir, couvert de noir. Enfin, c'est un petit peu l'expérience des minorités, on va dire.
Alors justement,
inversement des rôles, le temps d'une soirée.
Une question, mais qui est vraiment pas, n'y voyez aucune méchanceté ou polémique de ma part. Le mot nègre est employé dans la pièce et en l'entendant, ça m'a gêné parce que d'un coup, on se dit,
Je comprends.
C'est plus.
Faut leur placer.
Il y a un siècle, je suis totalement d'accord.
Josephine Baker, qui était noire, dansait dans la revue Nègre quelques années après.
Oui, mais et les têtes de nègre et ainsi de suite. Sauf que, aujourd'hui, on n'aime plus entendre ce.
Je suis d'accord, mais quand Marcel Florence Viala dit Ah mon Dieu, un nègre, qu'elle me découvre le visage couvert de suie, c'est vrai qu'il y a quelques rires, mais un malaise qu'on sent tous les deux dans la salle. Parce que le mot nègre, mais bon, c'est fait d'eau.
Et vous êtes posé la question ou pas de le garder ou non?
Non, parce que c'est fait d'eau, il faut le remettre,
on ne touche pas le texte.
Faut avoir l'intelligence de le remettre dans le contexte dire il y a un siècle et demi.
Non, c'est ce que je me suis dit, et je me suis même dit, c'était possible où on pouvait en rire il y a un siècle,
sans doute.
Aujourd'hui, maintenant, on sait ce que c'est,
je suis bien d'accord.
Ce que ça porte.
Et comment ça se passe quand il y a quelqu'un qui est malade au sein de la troupe, il y a quelqu'un qui peut le remplacer au pied levé ou
ça, ça peut arriver, c'est déjà arrivé.
Non, mais c'est prévu par exemple pour le rôle de Mathieu.
Thierry Ancis va reprendre le rôle à un moment
en juillet
et à la rentrée. Mais il peut y avoir un accident, un acteur, une actrice qui se blesse, mais a priori...
Donc il y a des doublures de prévues ?
Pas de doublure, mais l'acteur ou l'actrice qui est libre, qui peut rentrer dans le costume, qui est disponible, va passer les heures qui restent avant la représentation pour essayer d'apprendre le texte.
Le cas pour toutes les pièces de théâtre, qu'elles soient privées ou publiques.
Ouais, c'est vrai.
Oui, sauf qu'imagine le rôle de Pinglet, ça prend 6 heures avant que Michel, je ne vous le souhaite pas, est indisponible ou indisposé.
Je m'étais cassé deux côtes, d'ailleurs, ça a failli arriver à un moment pendant une représentation. Donc,
là, je pense qu'on a frémi, à la Comédie Française en se disant...
Mais ça arrive rarement. Mais ça peut arriver.
Ça vous arrivait, vous, d'avoir à remplacer quelqu'un comme ça?
Non, ça ne m'est jamais arrivé, mais c'est arrivé, je crois, à Thierry Ancis, sur Don Juan. C'est arrivé, il a repris le rôle de Sganarelle en 12 heures.
C'est le propre de tous les spectacles, des comédies musicales, parce que toi qui aimes chanter Alison, des comédies musicales où il y a des doublures, il y a par moments des comédiens qui sont derrière, qui connaissent
le
personnage et qui attendent. Non, mais qui sont là.
Oui, sauf que là, personne n'attend, c'est que tout d'un coup, au débeauté, on va dire, il faut remplacer le rôle de Michel et quand vous parliez de Sganarelle. Non, je ne veux pas vous remplacer, surtout pas.
Arrêtez de parler des choses positives.
Non, je ne veux pas vous remplacer.
Alison va faire un malaise, c'est pas le moment.
Ça peut arriver. et chaque comédien doit être disponible. C'est pour ça qu'on a un contrat d'exclusivité avec la Comédie Française et qu'on prévient si on a une absence pour un film ou une convenance personnelle, un voyage, n'importe quoi. On prévient parce qu'à n'importe quel moment, l'administrateur peut vous appeler et dire voilà, bon, demain, tu reprends le rôle de parce que machin, c'est cassé le pied, c'est cassé le bras, c'est essouffrant, à 42 fièvres. Ça arrive.
Et ça permet comme ça à plein de gens de faire des carrières aussi. D'un coup, ils démarrent, ils sont repérés parce qu'ils ont été remplacés.
Michel Villermoz dans l'hôtel du Libre.
On va voir Michel Villermoz, voilà, la Comédie Française. Et puis tu vas pouvoir le voir dans plein d'autres activités aussi. On va parler de Cyrano de Bergerac et de l'assiette de mon voisin et de Knock. Et ouais, il y a plein de choses encore à dire avec Michel Villermoz qui est notre invité. Mais d'abord, voici l'humeur d'Alison Wheeler.
Super pour commencer ça, Nagui. J'en profite car aujourd'hui est un jour très très important pour notre jeunesse. C'est le début des épreuves du bac. Bah oui, pendant qu'on rigole, qu'on discute théâtre, il y a des centaines de milliers de jeunes qui transpirent du cul en ce moment même sur leur chaise devant une page blanche, un peu comme moi hier quand je cherchais une idée de chronique. En France, l'an dernier, il y avait 88,5% de taux de réussite au bac. Alors comme on encourage souvent ceux qui vont réussir, moi je voulais encourager les 23 autres, les 17 autres, bon bref, les autres, ceux qui vont échouer, car l'échec fait grandir. Parce qu'il n'y a pas que l'éducation académique, il y a l'école de la vie aussi. The School of Life en anglais, Schule des Lebens en allemand, la HES pour les rappeurs. Cette chanson, c'est pour tous ceux qui vont rater leur bac et qui sont pas des merdes pour autant. Tu sniffes ton tube de colle et tu vis près du radiateur. Toi qui dessines des tubs sur la photo du proviseur. Tu falsifies tous tes bulletins de notes. L'alphabet, tu t'en rappelles que si tu le rotes. En sport, personne ne te veut dans son équipe de basket. T'as raté ta communion tellement t'es dans la défaite. Dans toutes les matières, tu es une bouse. T'as peur de finir sur énergie 12. Tu penses être le Henri Guénaud de ton bahut. Reste fier, tourne pas le dos. Mais sors-toi les doigts du cul.
Viens passer ton bac. Sors-toi les doigts.
Sors-toi les doigts.
Viens passer ton bac, donne-moi la main. Viens passer ton bac,
sors-toi les doigts. Sortez-vous les doigts, France Inter.
Viens passer ton bac, donne-moi la main.
Ok, yeah. Je ne veux pas me fâcher avec tous les professeurs, même s'ils représentent la moitié de nos auditeurs. En anglais, t'apprends tes verbes irréguliers, pourtant nous on sait pas conjuguer Donald Trump avec président. On enseigne la reproduction en SVT à nos fils, mais personne ne sait vraiment à quoi ressemble un clitoris. Il s'ennuie en attendant que la cloche sonne pour aller faire son éducation sexuelle sur YouPorn. T'as l'impression que ce sont les études qui te poursuivent. Y'a jamais personne qui vient quand tu dis qui m'aime me suit.
Viens passer ton bac, sors-toi les doigts.
Sortez-vous les doigts mes frères.
Viens passer ton bac, donne-moi la main
si elles sont propres.
Viens passer ton bac, sors-toi les doigts.
Sors-toi les doigts. Ok mes frères, c'est en galérant qu'on devient galérien. C'est en se les sortant qu'on devient quelqu'un. C'est en Dupont-Aignan qu'on devient bon à rien. À trop réviser, on devient révisionniste. Si tu connais pas tous les théorèmes, c'est parce que tu ne comptes que sur toi-même. Mais arriver à vivre avec la moitié d'un SMIC, ça vaut bien un prix Nobel de mathématiques. Ok bébé.
Oh my god.
You got it.
Sors-toi les doigts,
sors-toi les doigts, allez.
Viens passer ton bac, donne-moi la main.
Si elles sont propres, bébé.
Viens passer ton bac, sors-toi les doigts,
sors-toi les doigts.
Viens passer ton bac,
donne-moi, donne-moi, donne-moi.
viens passer ton bac, sors-toi les doigts. Viens passer ton bac, donne-moi la main.
Donne-moi.
Viens passer ton bac, sors-toi les doigts. Viens passer ton bac, donne-moi la main.
Bravo. Bravo. Avec au cœur Rachad, Indy et Michael, la musique est de
Bravo
Romain Vissant.
La bande originale.
Et Alison Wheeler.
Ouais. Ça donnera presque envie d'aller à l'école. Hein.
Et Alison Wheeler. Enlève-toi les doigts et donne-moi la main.
Sortez-vous les doigts. Merci à ceux qui l'ont fait.
Surtout si...
Elles sont propres.
Elles sont propres, c'est quand même l'essentiel.
Tout ce que vous avez retenu, Nagui.
Ouais.
Il y avait plein de messages.
Ouais. Sur les révisionnistes. Sur... Non, mais un texte, une écriture, une plume. Alison.
Attention, un message.
Alison, merci.
Merci à vous.
Merci
toujours un plaisir.
Merci de nous avoir choisis, Alison.
Ah, ouais.
Merci de venir chez nous et pas ailleurs.
Merci. Une chronique qui fait du bien.
Ouais.
C'est vous qui me faites du bien.
Tant qu'elle reste tant qu'elle reste avec nous sur Inter et qu'elle va pas ailleurs. Voici la bande originale de Michel Villermoz, votre bande originale mise en musique, par vous-même. C'est-à-dire qu'on vous a demandé ce que vous écoutiez, par exemple, dans les années 80, 86, pour être précis, vous écoutiez Yves Montand.
Quand on partait de bon matin, quand on partait sur les chemins, à bicyclette, nous étions quelques bons copains. Il y avait Fernand, il y avait Firmin, il y avait Francis et Sébastien, et puis Paulette.
Yves Montand, de réentendre cette musique, vous voyez d'abord le comédien, l'artiste engagé aussi qu'il était, le chanteur, l'homme de spectacle. Qu'est-ce que vous avez comme image d'Yves Montand?
Yves Montand, j'avais essayé de le rencontrer lors du tournage de Police Python 357 d'Alain Corneau. Le tournage avait lieu à Orléans en 75, je crois. J'étais petit et j'étais venu voir le tournage parce que c'était un événement à Orléans. On savait qu'il y avait Yves Montand, qui était une star incroyable à l'époque. Et j'étais venu avec mon petit bout de papier pour essayer de lui demander un autographe. Et puis à un moment, à l'arrêt d'une prise, c'était la première fois que je voyais un tournage, je vois Yves Montand dans son grand imperméable, monsieur qui fait, je sais pas, il faisait de faire 1m90, très très grand, très impressionnant. Et il est passé à côté de moi, et je suis resté avec mon papier et mon crayon, et j'ai pas osé lui demander l'autographe, tellement j'étais impressionné. Donc c'est un souvenir, ça, de d'Yves Montand, comme ça, passant à côté de moi, le regard assez dur, sûrement dans son rôle. Et puis bon, la chanson que je trouve magnifique, le vélo aussi, c'est une époque aussi où je fais beaucoup de vélo. Puis 86, vous parliez de 86, où c'est Bernard Hinault, c'est Greg Lemon, c'est l'Alpe d'Huez, Briançon,
c'est la main dans la main,
la main dans la main, ouais, c'est 86, ouais. C'est ça, c'est première victoire d'un coureur américain, c'est la victoire morale peut-être de Bernard Hinault, qui pour moi à ce moment-là est une espèce de Cyrano de Bergerac, enfin, mon idole absolue, Bernard Hinault à l'époque. Voilà, c'est ces souvenirs là de jeunesse, de vélo, de Montand et du Tour de France. Oui, c'est de 86, et qui était magnifique.
C'est une chanson qui permet de rappeler qu'on dit « à vélo » et pas « en vélo ».
Oui.
La beauté de notre langue française. Vous parliez de Cyrano de Bergerac, justement, vous l'avez créé, vous avez joué ce rôle en 2006.
Oui.
C'est ça. 20 ans après. Si je parle de 20 ans après, c'est parce que là, vous rencontrez en 86 Denis Podalydès, que vous retrouvez justement dans Cyrano, 20 ans plus tard.
Oui, c'est ça, ouais. Oui, de 80, c'est ça, bravo.
Au conservatoire.
Conservatoire, oui. On se prend d'amitié tous les deux, et puis à la rencontre avec son frère Bruno, Versailles rive gauche, enfin une histoire qui va commencer avec Denis, après André le Magnifique qu'on fait ensemble avec Denis, après la Comédie Française en 2003, voilà une espèce d'amitié comme ça qui depuis plus de 30 ans.
Et c'est beau, c'est beau, c'est fort. Vous reprenez d'ailleurs Cyrano avec Denis.
Il y a une semaine, on a repris Cyrano
Donc oui, vous jouez les deux pièces en parallèle, aussi bien le Phédo
que le Cyrano, puis Arturo, oui, aussi un autre spectacle dans lequel je suis. Voilà, oui. Dimanche, je vais en faire deux d'ailleurs.
Et des fois, vous, Cyrano, par moment, vous perdez vos clés, vous savez pas où elles sont. Vous avez des trous de mémoire de choses de la vie quotidienne. Parce que avoir autant de textes
disponibles, oui, pour les textes, il doit manquer des choses.
Ah non, ça c'est ça peut impressionner comme ça, mais non, c'est plus une gestion de la fatigue après. Oui. Je sais que samedi, par exemple, à 14h. Je vais faire Arturo, oui, le soir Cyrano, le dimanche après-midi à 14h Cyrano, et le soir Phédo. Donc je vais m'en faire 4 pendant le week-end. C'est plus une gestion de la fatigue. C'est pas tant la mémoire, parce que c'est des répertoires très différents. Donc ça va, on appuie sur un bouton à un moment, puis on a travaillé. Moi j'ai beaucoup travaillé Phédo. J'ai eu la chance de travailler avec ma femme, Laurence, qui m'a fait travailler, mais heureusement, c'est grâce à elle que, si je suis pinglé aujourd'hui, c'est totalement grâce à elle. Isabelle Nanty aussi, bien sûr, mais c'est surtout grâce à elle qui m'a fait travailler. Mais
ça veut dire quoi, faire travailler? Comment vous faites
répéter
travailler
le texte? Répéter le texte, parce que c'est un enfer à apprendre, Phédo. C'est beaucoup plus difficile que Cyrano, parce que c'est bourreux, c'est un texte assez quotidien. Ouais. Mais vous voyez, quand il dit, je sais pas, des E, A, bon, si on commence à vouloir changer, ça marche pas. Et puis c'est E, A, trois points de suspension.
Oui, il y a le tempo.
Il y a le tempo. Ouais. Donc, et ça, pour moi, je suis extrêmement laborieux, extrêmement lent. Donc, Laurence m'a fait travailler et je la remercie. Je l'aime et je l'adore. Sans elle, voilà. Mais c'est vrai, je n'y serais pas arrivé. Sans elle, je ne pense pas que je n'y serais arrivé. En tout cas, pas avec cette précision que je peux avoir peut-être maintenant, qui me donne une certaine liberté, une certaine détente.
Ce qui est beau, c'est quand votre femme vous pousse vers l'hôtel du libre-échange. C'est ça qui est encore plus dingue. Vous parlez de la forme physique.
C'est de l'amour,
aussi.
Le vrai.
Ouais, vous parlez aussi de la forme physique. Est-ce que pour vous entretenir, le vélo, l'hygiène de vie, les heures de sommeil, la nourriture,
pas trop manger, pas trop picoler, ouais, des choses comme ça. Voilà, c'est plus après des précautions assez basiques. Essayer de dormir la nuit et de faire attention, dans la journée, à pas trop en faire. C'est économiser un petit peu, mais
le sommeil aide la mémoire.
Ah oui, c'est la mémoire, la voix, le repos de la voix, sommeil obligatoire. Ouais. Enfin, pour moi, oui, sommeil, mais je dors 6-7 heures. Hein. C'est difficile de dormir plus pour moi, parce que j'ai deux petites filles en bas âge, donc dès le matin, ça commence tôt, les bébés.
Ça ouvre tôt.
Il n'y a pas toujours férié.
Ça connaît pas les dimanches.
Non, ouais. et ça s'en fout un peu que la veille j'ai pu faire Pinglet ou Cyrano.
ça relativise en même temps.
Ouais. Oui, absolument. Ça relativise énormément et très précieux.
En 1998, vous écoutiez.
Les petits poissons dans l'eau. Ah bah, ouais. Nage. Les petits poissons dans l'eau. Nage aussi bien que les gros. Les petits, les gros.
Mais parce que les enfants, ils y sont pour rien si vous êtes au théâtre, si vous avez.
Oui, j'ai pris ça, c'est un clin d'œil un petit peu. Non, 98, c'était la référence aux Molières.
Et vous avez eu deux Molières pour André le Magnifique.
Moi j'en ai eu deux, mais en a eu 6 ou 7, je crois.
C'est ça. Révélation masculine et meilleur auteur pour André le Magnifique.
Oui, tout à fait. Mais 90, oui, c'est les Molières. Mais bon, c'est pour ça que j'aime pas trop. On en a déjà parlé d'ailleurs ici, je crois, il y a un an. J'aime pas trop cette cérémonie que je trouve assez grossière. Pour pas dire plus.
Vous avez pas vu cette année?
Vous aviez été l'année dernière un peu plus véhément en parlant des Molières.
Mais je le suis toujours. Je l'avais été déjà l'année dernière. En plus, il m'avait renommé pour Cyrano, il y a 10 ans une fois, puis pour pas le reprendre. Enfin bon, je me suis dit, c'est bon, c'est bon, les Molières, j'ai fini. Donc, les petits poissons, moi j'aime bien parce que je veux dire, comme Marielle, que j'adore, Marielle, qui dit qu'il préfère les perdants aux triomphateurs. Je suis pas un cheval de course ni un acteur de tombola. Donc les petits poissons nagent aussi bien que les grands.
Très bien.
C'est pour ça.
En 2010, vous écoutiez la bande originale de Tess. Ça vous évoque quoi en écoutant musique.
C'est rencontre avec Philippe Sard, donc qui a fait la musique de Tess, de pas mal de Polanski, et puis à peu près de la moitié du cinéma français, je pense. Ouais, une bonne 350 films, dont à peu près 250 chefs-d'œuvre. Donc c'est ma rencontre avec Philippe Sard qui est devenu un ami. J'adore bon ce film évidemment, Tess, puis Polanski aussi. J'avais fait un court métrage avec lui. Voilà, l'homme Polanski, le metteur en scène. Voilà, j'ai du mal aussi. Ça, c'est des choses qui me mettent un peu en colère, cet acharnement contre lui, même si, bon, voilà, il a fauté il y a longtemps, c'est vrai. Bon, j'ai du mal à comprendre.
Elle a demandé à ce que la plainte soit retirée.
Déjà, ça fait quand même certaines années, bon, qu'il y a une ligue féministe qui s'attaque à lui pour la présidence des Césars, qu'il refuse. Ouais, j'ai du mal à comprendre un monsieur qui a quand même, je pense, un certain âge maintenant, même s'il est toujours très en forme, cet acharnement contre lui, qui est un immense cinéaste qui a apporté énormément au cinéma en France.
Non, mais c'est pas tant la qualité de son travail, parce qu'il y a eu un sketch justement à la cérémonie des Césars de Blanche Gardin qui disait que voilà, un boulanger qui serait comporté de la même manière, on dirait pas oui, mais enfin il fait quand même la meilleure baguette. J'entends ce que vous voulez dire sur peut-être le droit au pardon, le temps qui fait que, mais mettre sur le même plan et de dire que il a apporté tellement, peu importe qu'il ait apporté tellement.
Mais je veux dire aussi, alors revenons sur les faits, voilà. il a purgé une peine, il a payé. Il est interdit de retour aux États-Unis depuis à peu près 30 ans, il va peut-être y revenir.
La victime ne veut plus en entendre parler, elle aussi.
On a l'impression que c'est un crime inexpiable.
Je suis pas en train de donner mon avis sur l'acharnement. Mais j'entends ce que vous voulez dire sur l'acharnement, mais après je pense qu'il est dangereux de mettre sur le même plan l'histoire et la qualité de l'individu, voilà.
Tout à fait d'accord.
Mais il serait mauvais réalisateur qu'il aurait sans doute aussi le droit.
Émile Louis était un bon conducteur d'autocar.
Non, mais voilà, c'était Tess, donc c'était ce petit clin d'œil à Polanski. Voilà, et pour revenir simplement au fait, donc je pense qu'il faut le laisser un petit peu tranquille maintenant. Et puis cette rencontre avec Philippe Sard, voilà, c'est la princesse de Montpensier aussi, c'est Tavernier.
Vous avez été nommé aussi au César pour le dernier Pour la route. Vous avez plus d'indulgence pour les Césars que pour les Molières?
C'est un petit peu plus glamour, évidemment. Franchement, ça m'intéresse. Je crois que je n'y retournerai pas. Ni César, ni Molière. Faut pas m'inviter. Ça m'intéresse
très bien.
Pas.
La comédie française est souvent aussi lieu de débats ou de polémiques sur, justement, la liberté des comédiens de pouvoir ou pas maîtriser leur emploi du temps comme ils le souhaitent. Certains refusent la Comédie française, d'autres la quittent, d'autres y restent. Vous, c'est une évidence pour vous d'y être? Vous ne vous imaginez pas en partir?
Oh, j'en partirai sans doute un jour, ou on me mettra dehors, sans doute aussi un jour. Mais pour l'instant, je m'y sens bien. J'ai la chance de jouer, voyez, que ce soit Pinglet ou Cyrano ou d'autres partitions à la rentrée qui vont arriver, des grands rôles. Donc artistiquement, je suis extrêmement gâté. Vous n'avez pas de raison d'en partir.
Vous avez votre mot à dire sur les rôles justement qu'on vous propose?
Non, pas du tout. Pas du tout. Non, c'est
ça fonctionne pas comme ça.
Le metteur en scène avec Eric Ruff.
Si vous ne voulez pas jouer,
on en parle, oui, avec Eric, mais bon, c'est ça ne m'est pas arrivé pour l'instant de refuser.
Mais quand vous dites on en parle avec Eric Ruff, il y a est-ce que la question est posée de as-tu envie de jouer ce rôle? C'est jamais posé.
Non, avec Eric. Après, j'ai pu refuser des rôles, mais parce que l'emploi du temps me le permettait pas, parce que c'était trop. J'aurais pu jouer là dans les fourberies de Scapin. Je peux pas, parce que j'ai expliqué à Denis, je peux pas là en juillet. Juin, juillet, commencer à répéter la journée, jouer le soir, enfin, je serais épuisé, puis après, il n'y a plus de plaisir à faire les choses.
Mais au-delà de ça, au-delà des contingences d'emploi du temps, il y a un rôle, on peut ne pas le sentir ou quelque chose, et dire, je ne préférerais pas.
Moi, c'est rare, quand même, c'est rare. Puis ça joue pas en ces termes. C'est plus metteur en scène. Puis bon, j'ai la chance, moi, d'être assez gâté pour l'instant. Les rôles qu'on me propose, c'est difficile de les refuser. Donc, j'ai une position.
Très capricieux de mauvaise foi pour refuser cela.
Ouais, je suis assez gâté quand même, très gâté même, je me plains pas. Hein.
On va parler de la comédie française justement avec Sabine Jaouche. Merci Sabine de venir à ce micro. Vous êtes notre spécialiste maintenant théâtre du XVIIe siècle jusqu'au XIXe siècle. Vous avez publié notamment L'art du comédien aux éditions Champion au XVIIe. La philosophie de l'acteur au XVIIIe siècle, toujours publié chez Champion. La mise en scène du répertoire à la comédie française. Et justement à propos de la comédie française, elle date de quand exactement? Qui l'a créée?
Bonjour, alors la comédie française a été créée en 1680. En fait, Louis XIV a ordonné que les deux troupes de Paris, la troupe de Molière et la troupe de l'Hôtel de Bourgogne, qui était la troupe du roi, fusionnent. La troupe de Molière avait déjà fusionné avec la troupe du Marais, parce qu'il y avait en fait trois théâtres à Paris au XVIIe siècle. Et donc, il ordonne le 21 octobre 1680 que les deux troupes fusionnent. Alors, on peut imaginer que c'était deux troupes ennemies, rivales, qui ne s'aimaient pas, puisque Molière s'est moqué des grands comédiens. Donc, les deux troupes ont été forcées de travailler ensemble.
Et quel était le but, alors, de les réunir? C'était au contraire de calmer les tensions ou de réduire les coûts? Quel était le...
Tel producteur reprend le dessus à chaque fois. Réduction des coûts, hein, il voit que ça.
Alors, selon Louis XIV, le but était d'améliorer la qualité des représentations. Donc, c'était un Apollon vieillissant, Louis XIV. Ce n'était pas Jupiter, mais Apollon vieillissant. Et on peut douter, en fin de compte, de cet objectif, parce qu'en fait, n'avoir qu'une seule troupe, c'était assurer un monopole à la troupe, parce qu'aucune troupe ne pouvait représenter des pièces en français à Paris. Et donc, ça menait à un certain, on va dire, une certaine paresse. Et donc, la troupe s'est un peu laissée aller à ses traditions.
On est dans une institution, on est dans la maison de Molière, comme l'on dit, mais les auteurs, les premiers auteurs à avoir été joués à la Comédie française.
Alors, comme en fait la création de la Comédie française était le résultat de la fusion de plusieurs troupes, en fait il y avait les répertoires de toutes ces troupes. Donc quand la Comédie française a ouvert en 1680, donc à l'hôtel, le théâtre de Guénégo, on a repris les auteurs traditionnels, Molière, c'est-à-dire Corneille, Racine, mais on a commencé par une pièce de Boyer, une tragédie qui s'intitulait Agamemnon. Et donc, on reprenait des pièces des trois répertoires, en fait. Et au fur et à mesure, il y a eu des créations de nouveaux auteurs qui ont eu leurs pièces jouées pour la première fois.
Et dès le début, l'idée est d'avoir, arrêtez-moi si je me trompe, ce qui se passe aujourd'hui, c'est-à-dire des comédiens qui sont salariés, qui sont sûrs d'avoir une occupation, du travail, voilà, et des revenus, parce que c'est pas non plus le cas de tous les comédiens. C'était la règle de base.
Oui, au départ, il y avait donc 23 parts et les comédiens, en fait, se sont endettés au début parce qu'ils ont dû, rapidement, ils ont dû changer de théâtre. Ils ont été obligés d'aller rive gauche, rue Saint-Germain-des-Fossés. Et donc, ils ont dû acheter le théâtre et se sont endettés.
C'est les comédiens qui ont acheté le théâtre?
Ah oui. Et donc, ils devaient reverser une certaine somme, et le théâtre fonctionnait comme ça. Il n'était pas complètement subventionné. Ce n'est qu'en 1757, parce que le théâtre était au bord de la ruine, que le roi a décidé de reprendre en fait la dette. Et à ce moment-là, les comédiens ont encore été...
Et le déménagement au Palais Royal, alors, date de quand?
Alors, le Palais Royal, c'était en 1770, en fait. C'était aux Tuileries. Parce qu'au départ, c'était au théâtre Guénégo, rive gauche.
Juste savoir, depuis quand la Comédie française est là où elle est?
Ah, au théâtre de la République, c'est en 1799, pardon. Parce que c'était le théâtre où était allée. Enfin, la troupe, en fait, il y a eu une scission en 1793. Donc, il y avait la troupe.
Au niveau des dates, ça va
Donc,
non mais je veux pas savoir. Pardon, c'est pas.
Il veut pas savoir pourquoi, mais oui, depuis quand c'est Place Colette?
C'est exactement. Voilà, depuis quand c'est Place Colette?
C'est parce que là, il y a eu une scission. Ils étaient d'abord à l'hôtel.
Depuis quand?
En 1799.
Voilà, très bien. C'est juste savoir depuis quand elle est cette Comédie française est installée là, et lorsqu'en l'occurrence Michel Villermoz et la troupe de la Comédie française jouent maintenant, elle joue dans ce lieu depuis, enfin pas mais depuis 1799.
Faites pas votre âge, Michel. Hein.
Mais pourquoi?
C'est une fraîcheur.
Ouais, c'est étonnant,
on a vu des choses.
Ah, ça. Et Et donc, est-ce que c'est de tout temps, ça a été difficile pour les comédiens de jouer et à la Comédie Française et en dehors de la Comédie Française, ou ce n'est que depuis que le cinéma fait des yeux doux aux acteurs de la Comédie Française?
Alors, de tout temps, les comédiens pouvaient aller en tournée en province ou à l'étranger, mais évidemment, ils étaient tenus de rester à la Comédie Française, donc ils ne pouvaient pas jouer, par exemple, à l'Opéra Comique ou dans d'autres théâtres. Donc, de tout temps, ça a été comme ça.
Et ils doivent rendre des comptes, c'est-à-dire dire « je vais présenter le rôle ». Alors, autant ils ne peuvent pas refuser un rôle que la Comédie Française leur demande de jouer, mais à l'inverse, s'ils vont dans un film, ils doivent soumettre ce film ou ce rôle à la Comédie Française qui a son mot à dire.
Alors, je parle sous le contrôle de Michel Villermoz, mais normalement, ils demandent un congé.
Oui. Ce sont les dates qui comptent et pas le
fond. Non, pas le...
Si vous faites un film...
Un porno, si on a envie de faire un porno, on fait un porno. Après, il faut que ça puisse rentrer...
Michel, excusez-moi.
Vous savez, je suis dans l'hôtel du libre-échange.
Dans l'hôtel du libre-échange, il y a cette réplique. Hein. Il y a de la lave en moi, de la lave en ébullition. Seulement, je n'ai pas de cratère.
J'ai pas le cratère. Formidable. La Comédie Française est de plus en plus branchée aujourd'hui. Il y a eu comme ça dans l'histoire de la Comédie Française des périodes avec le... c'est chic d'y être, au contraire c'est ringard d'y être. Ça dépend de quoi? Ça dépend des administrateurs?
Ça dépendait des spectacles en fait présentés, parce qu'au XVIIIe siècle, la Comédie Française était hyper branchée, on va dire. Alors au début du XVIIIe, par exemple, il y avait des pièces avec danse et musique, les Dancourades par exemple, donc c'était très fashion. Et après, on a inclus des ballets au milieu du siècle, donc tout le monde allait à la Comédie Française, peut-être moins pour voir les pièces que les ballets, parce que c'était... ils avaient des costumes très modernes, ouais. Donc la Comédie Française était vraiment branchée au 18e, on peut dire. Et il y avait beaucoup de pièces nouvelles, en fait.
Il y a un numerus clausus, il y a un nombre précis de comédiens engagés à la Comédie Française et qui, ce nombre ne change pas.
Comme à l'Académie.
Alors, de nos jours.
Il y a des sièges, il y a des places.
De nos jours, si je ne me trompe pas, c'est 30 sociétaires, c'est ça? Et 20 pensionnaires.
40 sociétaires, oui, à peu près. 38 sociétaires et puis une vingtaine de pensionnaires. Je crois qu'on doit être 67, 68 en tout.
Donc il y a des grades, hein, c'est ça, entre les sociétaires et les pensionnaires?
Voilà, les sociétaires, en fait, ils ont leur part. Et les pensionnaires, ils sont
en pension.
Embauchés. Et,
ils ont des contrats. De 2 ans, renouvelables ou pas, de part et d'autre.
Alors vous êtes quoi, Michel?
Moi, je suis sociétaire.
Et est-ce que vous êtes interrogé pour les pièces qui entrent au répertoire? Parce que ça, c'est aussi important, la matière première que vous allez jouer sur scène. Je crois que c'est un répertoire qui se renouvelle.
Oui, il y a un bureau des lecteurs, tenu par certains sociétaires, qui peuvent faire rentrer, après lecture de certains textes, des pièces contemporaines d'auteurs vivants au répertoire. Absolument.
Merci beaucoup d'avoir pris le temps de venir nous raconter toutes ces dates, toutes ces histoires de la Comédie Française et du théâtre. Sabine Chaouch, on le voit bien, Daniel Morin, la Comédie Française, c'est une institution avec ses règles, ses coutumes, son histoire, mais c'est un trésor dont on peut être fier, puis ça va se poursuivre. En plus, c'est notre culture qui est en jeu, qui met comme ça en lumière...
Oh, le petit crapaud!
Des talents, des auteurs...
Pétainiste lundi, résistant mardi, métrosexuel mercredi, homme de sous-culture le jeudi, mais vous devriez vous lancer en politique, mon bon monsieur Guy. Vous avez les qualités requises. Avec la fourberie en plus, c'est votre force. En revanche, en attendant votre nouvelle carrière, je vous propose de vous taire. Voilà. De la fermer, de la boucler à double tour, de jeter la clé dans les toilettes sales du 6e étage de la maison de la radio. Et puis, même si je sais que c'est difficile pour vous, cessez de parler de ce que vous ne connaissez pas. Qu'est-ce qu'il me disait encore ce matin? Ah ouais, c'est chouette, aujourd'hui on va se marrer en parlant de la Comédie Française, de Funès, Les Visiteurs, d'Annie Boone, Franck Dubosc. C'est vous, monsieur Guy, c'est vous. Non, là on parle de la Comédie Française, le lieu, avec des murs, une porte, un toit, espèce de petit analphabète pétri de vice et d'inculture. Ah, je vous garantis que c'est tout ce que vous détestez là-bas. Si je vous dis Villermoz, Podalides, Lafitte Gallienne, c'est quoi? Eh ben non, c'est pas la liste VIP des chandelles. C'est pas non plus la liste d'attente pour le prochain Jackie et Michel. Enfin si, il y en a 2 dans la liste. Enfin bref, là n'est pas le propos. Sachez que ces 4 personnes sont des célébrités de cette Comédie Française. Des personnalités qui sont en CDI. Oui, des artistes en CDI. Voilà, tout ce qui vous dégoûte, monsieur Guy, en gros, pour résumer. Et oui, c'est une secte, un groupe fermé qui méprise les talents qui ont une trajectoire un petit peu différente. Alors pour illustrer mon propos, j'ai à mes côtés un homme charismatique, un comédien de la vie qui a été refusé 12 fois à la Comédie Française. Bonjour François-François.
Salut mon ami.
François-François, vous qui avez été testé par la Comédie Française, ça s'est passé comment?
Un vrai calvaire, un cauchemar. J'ai été traité comme une souillon sans talent, comme une socialiste.
Vous pouvez préciser?
J'ai présenté un texte d'une grande émotion que ces salauds ont à peine écouté.
Vous pouvez nous réciter un passage?
Avec plaisir.
Allez-y.
Et tu danses avec lui, la tête sur ton épaule.
C'est marrant, ça me dit quelque chose. Molière, Shakespeare?
Non, c'est Jérôme.
Ah, mais oui, bien sûr, c'est Jérôme. Et vous n'avez pas été pris?
Non, c'est une infamie.
Vous voyez, monsieur Guy, ces gens de la Comédie Française n'y connaissent rien. On est loin du trésor susmentionné de tout à l'heure. Une fois de plus, désolé, mais vous avez dit...
N'importe quoi. Merci, Albert Daniel.
C'est la bande originale, soyez les bienvenus si vous nous rejoignez avec Leïla Kadour-Boudadi.
Bonjour à tous.
Alexa Douillard, Daniel Morand,
Daniel.
Albert Algout et notre invité Michel Villarroche.
De la Comédie Française.
Et oui.
C'est obligatoire.
De la Comédie Française. Oui, vous êtes obligés. Tous les génériques de films.
Les affiches.
Forcément, ouais, c'est noté, ouais, les affiches, ouais, aussi. Affiches aussi.
Ouais.
Obligatoirement.
Oui, obligatoirement, ouais, vaut mieux. Ouais. Je ne sais pas si c'est contractuel vraiment, mais on le fait tous.
C'est stylé.
Ouais.
Hein.
Ouais.
C'est une manière aussi de. C'est une reconnaissance, une fierté.
Ben, c'est comme ça. C'est dire, voilà, il y a quand même toujours, avec la Comédie Française, l'idée d'exclusivité. Donc c'est vraiment un acteur de la Comédie Française qui est prêté pour une autre pièce, pour un film.
Prêté,
mais, voilà, prêté. Mais c'est ça.
Ah oui,
ouais.
Comme les Miss France.
Oui, c'est ça. Exactement.
Elles sont apprêtées, elles. Comment rentre à la Comédie Française? Une jeune comédienne ou un comédien de 20 ans peut rentrer à la Comédie Française?
Bien sûr. Oui, oui.
Audition.
Oui, ça peut être des auditions. Éric Ruff avait fait des auditions pour engagement de jeunes pensionnaires. Chaque cas est différent, vraiment. C'est, a priori, il faut toujours que la troupe puisse jouer pratiquement le répertoire. Donc ça veut dire hommes, femmes de différentes classes d'âge, pouvoir tout jouer.
Ça veut dire que même si on a une quarantaine ou une cinquantaine d'années, bien qu'on n'est pas la Comédie Française, on peut postuler.
Bien. Oui, mais postuler.
Comme Dominique Blanc.
Dominique Blanc est rentré.
A fait son entrée tardivement.
Oui, d'accord, moi-même, je suis rentré, j'avais 40 ans, ce qui n'est pas forcément très jeune quand je suis rentré. Michel Robin, je crois, est rentré. Il est resté 15 ans, il est rentré, je crois, plus de 60 ans. Ça dépend. Il n'y a pas que des jeunes comédiens ou comédiennes qui peuvent rentrer aux Français.
Est-ce qu'il y a une vraie mixité au sein de l'équipe des comédiens et comédiennes?
La parité, tu veux dire vraiment?
Non, des origines, pardon. Des personnes issues de la mixité.
Bien sûr. Ah oui, oui. Toutes les origines, bien sûr.
Et vous êtes rentré à la Comédie Française parce que vous l'avez demandé ou parce qu'ils sont venus vous chercher?
Ils sont venus me chercher. Enfin, c'est Denis Podalydès qui a soumis mon nom à Piotr Fomenko, un metteur en scène qui montait La Forêt à ce moment-là, qui a dit tiens, parce que il trouvait pas son comédien, Fomenko. Et Denis a dit moi je connais quelqu'un qui pourrait jouer ce rôle. J'ai rencontré Fomenko et il s'est trouvé que c'était à la Comédie Française. Donc j'avais pas vocation particulière, une envie, un désir fort de rentrer à la Comédie Française. Il s'est trouvé que c'était à la Comédie Française. Après je m'y suis bien senti. J'ai trouvé qu'on travaillait très très bien, qu'il y avait des gens qui étaient là extrêmement sympathiques, qui faisait du théâtre, qui était là pour le théâtre. Mais au départ, je n'avais pas de vocation. Vraiment, je me suis dit, je vais rester le temps du spectacle et puis après, je m'en irai.
L'Hôtel du Libre-Échange, c'est une pièce de Georges Feydeau, mise en scène par Isabelle Nanty avec des costumes de Christian Lacroix. Le décor aussi, qui est juste dinguissime. Là, il n'y avait aucune indication donnée par Feydeau.
Même avec Isabelle, dès les premières répétitions, je lui ai dit, mais pourquoi tu mets la porte de Madame Pinglet là, de ce côté? Et puis on a discuté et elle s'était trompée de côté. Enfin, elle avait voulu tenter quelque chose et en fin de compte, je lui ai dit, fais gaffe Isabelle, est-ce qu'on va se faire rattraper par Feydeau? Si tu mets Madame Pinglet, la chambre de Madame Pinglet là, on va se le prendre comme un boomerang dans deux actes. Ça va être assez terrible. Donc on a changé les entrées.
On dit beaucoup que c'est du Feydeau, mais c'est Feydeau et Maurice Desvalières. Il n'est pas cité, lui, ça reste du Feydeau.
C'est Feydeau qui a demandé qu'il ne soit pas cité.
Il a collaboré au début.
Ils ont collaboré sur pas mal de pièces, ouais. Je pense que Desvalières travaillait sur la structure aussi. Feydeau était vraiment dévolu vraiment sur les dialogues. C'était vraiment sa spécialité. C'est lui qui bossait, puis bon, Fedot avait un ego quand même assez puissant.
Comédie sur une comédie boulevard, comme on dit, avec pardon, des couples qui se trompent, qui se détrompent, qui se retrompent, qui se déniaisent, qui s'aiment, des portes qui claquent, et puis tous les travers humains, toute l'hypocrisie, le mensonge, les faux semblants, enfin, tout y est, comme l'a dit tout à l'heure Albert Algou. On rit énormément, mais c'est plus profond que ça aussi, si on veut y voir des choses plus
puis
profondes,
tout est d'une
on peut
fluidité
trouver.
Extraordinaire, ouais. C'est-à-dire que Fedot, il cale jamais un jeu de mots de force au chausse-pied. Tout vient dans le mouvement, tout est dans le rythme. Ouais, ouais. C'est admirable, ça, c'est admirable.
C'est une chute permanente. Ouais. Et je me disais, la mise en scène d'Isabelle Nanty, ça marque aussi, déjà depuis quelques années, l'ouverture de la Comédie française à d'autres metteurs en scène. Récemment, les damnés d'Ivo Van Hove. Vous aimeriez être dirigé par quel metteur en scène, s'il y avait un souhait comme ça dans l'absolu, parce que c'est la chance d'être à la Comédie et de voir arriver maintenant des grands metteurs en scène, des Thomas Ostermeyer, des...
Oui, Ostermeyer, oui, je pense qu'on aimerait tous rencontrer Ostermeyer, d'ailleurs qui va peut-être venir, je ne sais pas, on espère, Eric travaille, il travaille en tout cas.
Qui est la tête de la Chaubune en Allemagne, qui est un peu l'équivalent de la Comédie française en Allemagne.
Les metteurs en scène, eux, ne sont pas ni sociétaires ni pensionnaires, non. ils sont extérieurs.
Ils viennent faire leur mise en scène. D'accord. Après, c'est difficile de les avoir, parce que bah, déjà, par exemple, pour le cas d'Ostermeyer, il est à la Chaubune à Berlin, donc il a pas mal... Puis c'est des metteurs en scène qui ont des calendriers 2-3 ans à l'avance, donc il faut vraiment réfléchir très très longtemps à l'avance pour savoir quel créneau il pourrait prendre, quelle pièce il voudrait monter. Enfin, il y a tout un travail de séduction, un travail à faire pour les faire venir. Puis eux peuvent venir avec... On peut avoir un a priori aussi sur la Comédie française, se dire je vais pas pouvoir travailler avec ma troupe dans mon théâtre. Bon, voilà, faut les rassurer.
Arnaud Desplechin, vous aviez joué avec Arnaud Desplechin.
Oui, le père de Strindberg, ouais, qui était magnifique. Ouais.
À la Comédie française, l'Hôtel du Libre-Échange, c'est jusqu'au 25 juillet. Il y a cette représentation du 14 juillet qui sera entièrement gratuite, les 840 premières personnes. Il y aura full place Colette pour retirer les places pour ces 840 places mises à disposition pour le 14 juillet. Voici l'humeur de Daniel Morin.
Aujourd'hui 15 juin, Alison nous l'a rappelé brillamment, c'est le début des épreuves du bac. Alors, comme d'hab, c'est avec la philo qu'on lance les hostilités. Et puisqu'on parle philo, ça tombe bien.
Salut les amis, oui, aujourd'hui est un grand jour.
Bon, c'est François, c'est le jour de l'épreuve de
philo. Mais non, on s'en fout du bac philo. Non, aujourd'hui est un grand jour, parce que c'est l'anniversaire de... l'anniversaire de Johnny. Johnny, légende éternelle du rock'n'roll. Johnny, l'idole des jeunes de plus de 60 ans.
Bon anniversaire.
Plus de 1000 succès. Il a épousé Sylvie Vartan, le petit salaud. Il a épousé Nathalie Baye, le petit fumier. Il a épousé Laetitia, le petit cochon. Aujourd'hui, Johnny a 95 ans. Et il ne les fait pas. Il en fait 30 de plus. Bon anniversaire, salaud. Johnny.
Merci François. Bon, alors, pour en revenir à la philo hein, et à l'épreuve de ce matin. Est-ce important la philo? À quoi ça peut servir la philo? Ben je vais vous le dire, les amis.
Mais on s'en fout de la philo.
Quoi encore?
Aujourd'hui est un grand jour parce que c'est l'anniversaire de... l'anniversaire de Demis Roussos. Demis Roussos, mi-homme, mi-bête. Mais quel talent, quel organe, quel artiste. Demis Roussos, un artiste délicat au tube incontournable. Ses chansons, c'était que du bon, que du très très bon. Dommage qu'il soit décédé de la mort. Salut l'artiste et bon anniversaire.
Ça ne sert à rien de lui souhaiter un bon anniversaire. Enfin, Demis Roussos est mort, François.
On sait jamais.
Bon, ok, très bien. Bon alors, ce bac philo... À quoi ça sert?
C'est une honte.
Oh, qu'est-ce qui vous arrive, Ganache?
Eh bien, je viens passer un coup de gueule.
Et pourquoi?
Eh bien, parce qu'aujourd'hui, c'est...
Oui, on sait, c'est l'anniversaire de Johnny et de Demis Roussos. Allez, c'est bon, ça va. Bon anniversaire à tous les deux.
Ouais, vous souhaitez leur anniversaire aux gens morts, vous? Vous êtes complètement con.
Bon, ça va, je sais. Demis Roussos est mort.
Ah, lui aussi? Je savais pour Johnny,
oh,
mais pas pour le grec.
Arrêtez.
Bon, c'est quoi ce coup de gueule?
Eh bien, aujourd'hui, c'est la journée mondiale de lutte contre la maltraitance des personnes âgées.
Et alors?
Et alors, en tant que personne âgée, je tenais à dénoncer.
À dénoncer la maltraitance des seniors dans le monde?
Non, ma maltraitance à moi. Les autres, je m'en fous, ils peuvent crever.
Vous vous sentez maltraité?
Affirmatif. Bien qu'étant en CDI, je suis traité comme de la merde et exploité comme un enfant viette.
Comment ça?
Et qu'on me demande mon expertise culturelle, et qu'on me demande d'analyser la politique française, et qu'on me demande mon avis en diplomatie et relations internationales. Tout ça pour une paye de misère, aux côtés de collègues aussi laids que débiles, et dans une ambiance de vide intellectuel abyssal.
Bon ben, vous voulez quoi alors ?
Du pognon et une auxiliaire de vie un peu cochonne.
Alors, pour ce qui est du pognon, demandez à Nagui, les blindés d'oseille, il sait plus quoi en faire. Hein.
Et pour l'auxiliaire ?
Ah ben, il y a la petite Alison Wheeler, mais je sais pas si elle correspond à vos critères.
Ah ben, ça pourrait le faire. J'aime bien les femmes à moustache.
Non, mais Rachel, vous êtes en train de regarder notre invité, c'est Michel Villermont. Hein. Alison Wheeler, c'est la petite rouquine qui a pas l'air très vive.
Ah, c'est vrai. C'est vrai qu'elle a le regard idiot.
Non, non, mais ça, c'est Nagui, maintenant. Arrêtez, non, mais faites un effort. Elle est là, là, ici.
Ah,
là.
Pas mal. Écoutez, je sais pas, faudra l'essayer.
Oh, dites donc, l'essayer comment ?
Bah, voir comment elle pousse le fauteuil roulant, comment elle nettoie un dentier, comment elle change une couche. La vie, quoi.
Bon, allez, je vous la loue pour le week-end et on voit après.
Oh, bon,
ça, ça va pas, bien. Non ?
Allez, viens là, petite souillante.
Pour la philo, j'ai l'impression qu'on n'a plus le temps. Alors, comme le disait très souvent et surtout très justement Socrate le jeudi soir, à demain, vendredi.
Merci, merci.
Avec Nagui.
Tout ce que j'ai le droit de faire est-il juste ?
Non.
Suffit-il d'observer pour connaître ?
Non.
Oui. Ah, faut savoir. La raison peut-elle rendre raison de tout ?
Non.
Non, ça, on est bien placé pour le savoir.
Une œuvre d'art est-elle nécessairement belle, Michel Virmoz ?
Une œuvre non, pas du tout. Non.
Enfin bon, ce sont les sujets de philo. Bah
oui,
au bac.
Non. C'était ce matin ?
Ouais.
Ah, c'est intéressant.
Tous les sujets. Une œuvre d'art est-elle nécessairement belle ?
Mais non, on attendait qu'elle suscite une émotion, ça passe pas nécessairement par la beauté. Enfin, après, tu fais ton plan,
Thèse, antithèse, synthèse.
Une sorte d'eux, on va dire. C'est un peu plus subtil que ça normalement, mais
ah,
bon.
Ah, voilà.
Voilà, qui est précis.
Place à la subtilité. C'est Leïla qui débarque maintenant avec son brouillon de culture pour Michel Villermoz.
Michel, je vous sors de la promo un petit bol d'air sur notre brouillon de culture histoire d'apprendre à mieux vous connaître encore. On commence par un premier son pour vous.
Mais dites-moi, cher cousin, vous ne trouvez pas étrange que votre femme ait précisément choisi le jour où je viens dîner pour s'en aller en voyage ? Elle a dû partir brusquement pour un cas de rougeole. Vous comprenez, un cas subit. La rougeole. Je croyais que vous m'aviez dit qu'elle était partie chez des amis. Justement, chez des amis qui ont la rougeole. Ah.
C'est Louis Jouvet et Michel Simon dans Drôle de Dame de Marcel de Marcel Carnet, Drôle de Dame.
J'ai voulu voir Jouvet en Bosselet.
En Farid Bosselet.
Ça aurait été pas mal, Jouvet.
C'était en 37.
Je vous assure, mon cher cousin, que vous avez dit bizarre.
Louis, nouvelle imitation, c'est vrai, faut le noter.
Lâchez-moi.
On note.
Louis Jouvet qui vous a énormément influencé, Michel, notamment avec son comédien désincarné. Je crois que c'est un texte de référence pour vous.
Oui, cela a été, oui. Oui, c'est un grand pédagogue, un grand homme de théâtre, un grand homme de cinéma, acteur. Voilà, ouais, c'est quelqu'un qui m'a assez marqué, qui est assez fascinant, qui a quelque chose d'assez. Voilà, vous parliez de ça. Oui, Jouvet au cinéma. Enfin, moi, j'aime beaucoup le revoir. Quelque chose d'assez hypnotique chez Jouvet, dans son phrasé. Et puis, au-delà de l'acteur, c'est voilà, un immense homme de théâtre, metteur en scène, vraiment, il y a moderne, on va dire, premier moderne.
Et théoricien,
théoricien du théâtre, sur l'art de l'acteur, qui a tout dit.
Oui. C'est lui qui écriait ses élèves à la fin des cours, mort au con ?
Il paraît qu'il disait qu'il entrouvrait le rideau, quand il conseillait ça quand on avait le trac, et il disait « tous des cons ». Et avant la représentation, pour se donner du courage,
possible.
C'est ce qu'on dit.
Plein de phrases sur Jouvet, sur ses cours,
sur le trac.
Sur sa brutalité.
Quand
aussi,
une jeune comédienne lui avait dit j'ai pas le trac quand je rentre sur scène, il lui avait dit ça viendra avec le talent.
Oui, ça viendra avec le talent.
Et vous avez fait l'acquisition d'une photo qui est très connue. Qu'on retrouve dans tous les petits classiques Larousse.
Oui. C'est la photo de Jouvet en Don Juan.
Oui,
de Lipinski.
Qui est belle.
J'avais acheté ça.
Larousse, elle y est,
j'avais acheté ça à Drouot. Je trouvais ça joli. Petite folie comme ça. J'ai acheté ça beaucoup plus que ça ne vaut, évidemment.
Et elle figure où dans votre maison ?
Et dans l'entrée. Ouais, dans l'entrée, je regarde.
Et quel est le numéro de code d'accès à votre
maison ? Non, parce que.
Ça n'a aucune valeur. Ces trucs, ils n'ont aucune valeur.
C'est
une valeur. Bien sûr,
c'est une valeur.
Ouais.
Mais il paraît qu'il avait plein de furoncles.
J'ouvrais.
Vraiment
oui, 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 dans son blague. Il a souffert toute sa vie.
Tu te sens pas obligé avait... de nous raconter des horreurs oui.
Non, 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 c'est la vérité. C'est l'envers du décor, si vous voulez.
Et pour en revenir à ce livre, Le comédien désincarné, est-ce que dans votre pratique à vous, parce que j'imagine que vous vous questionnez sans cesse sur votre pratique, dans. Non Non, mais justement. Est-ce qu'un,
Selon les répertoires Fedo, oui, je me suis posé des questions, mais sur Fedo lui-même, j'ai essayé de voir de, voilà, pourquoi ça marchait comme ça, pourquoi, enfin, voilà, ouais, des questions liées au répertoire. Ouais. Mais Jouvet, oui, il est là, mais il m'a influencé beaucoup plutôt quand j'étais jeune comédien, beaucoup. Mais il a influencé beaucoup de jeunes comédiens.
Et là, aujourd'hui, s'il y a quelqu'un d'autre qui devait vous influencer dans la pratique même du comédien, ça peut pas nécessairement un théoricien, ça peut être un autre comédien, qui peut vous inspirer ou vous donner envie de décortiquer son jeu, de mieux le comprendre pour appréhender sa subtilité.
Aujourd'hui, ouais, je sais pas, moi, je suis toujours assez.
Pas Berléand en tout cas.
Ah, Berléand, j'aime bien François.
Non, franchement, il a une réputation.
Non, c'est un running gag, vous inquiétez pas.
Non, c'est dommage d'ailleurs que tant de gens aiment ce comédien pour humainement pour ce qu'il est, franchement.
C'est bon à ce point-là.
Non, je blague.
Ouais, c'est bien.
Je blague.
J'aime bien Depardieu. J'avoue, c'est pas d'une originalité incroyable. Voilà, j'aime beaucoup Depardieu. J'avoue que je suis assez fasciné par le bonhomme, même toujours, hein, toujours.
Et justement,
toujours.
Quand on reprend Cyrano et quand pense aussi à Depardieu.
Oui, bien sûr. Quand on avait commencé à travailler avec Denis, on y pensait. On avait le film de Rapneau dans la tête, bien sûr. Bah, c'est une belle interprétation de Depardieu parce qu'il a cette chose d'ogre et cette profondeur en même temps et cette tristesse, cette mélancolie et cette chose proche de l'enfance. C'est ce qu'on voulait aussi avec Denis. Donc c'est mon Cyrano qui n'a rien à voir avec celui de Depardieu. Encore que, je pense qu'il y a des points communs. Mais c'est quelqu'un que j'admire beaucoup. Et c'est vraiment, voilà, je pense à lui parce que j'ai dû en parler hier de Depardieu et j'adore ses prise de position, j'adore ce qu'il dit, j'adore son amour de la Russie, j'adore son amour de Poutine, j'adore Depardieu, j'ose le dire, ici à France Inter, dans une...
Vous adorez son amour de Poutine ?
Ah, moi j'adore... Ah, oui.
Vous adorez Poutine aussi ?
Moi j'adore Poutine,
ah bon ?
Moi je suis un inconditionnel.
Et
Poutine.
Pour quelle raison ?
Mais vous aimez tous les mafieux ?
regarde.
Ça serait trop court, là, il est 23, 10h23.
Mais vous aimez tous les mafieux, tous les bandits, ou non, juste Poutine ?
Non,
c'est avec plaisir,
c'est plus
quand compliqué vient vous voir, Nagui aussi.
C'est plus non, mais j'aime...
Il aime la Russie, la littérature.
Résumons, j'aime la Russie. Non, mais on va pas en parler là, mais bon, voilà, c'est beaucoup plus compliqué que ça, et voilà, Poutine n'a pas, voilà, je comprends ce que dit Depardieu, il faut connaître la Russie, pour en parler déjà, faut y avoir été, il faut connaître un peu, je pense que Depardieu peut en parler parce qu'il la connaît, mais au-delà de ses prises de position sur Poutine, qui sont discutables, hein, d'accord, ça, c'est-à-dire que Poutine est un enfant de cœur, et que, voilà, je blague et je grossis un peu le trait, évidemment, mais j'aime ce que dit Depardieu sur le théâtre, sur le cinéma, sur l'Europe, sur beaucoup de choses. Je suis assez d'accord avec les prises de position qui peuvent apparaître brutales de Depardieu et qui sont sujets à discussion, évidemment, et on leur met en place. Mais j'aime ce côté Cyrano, même dans la vie de Gérard Depardieu. Voilà,
je poursuis avec quelques mots que vous allez sans doute reconnaître. J'ai dit mon nom, j'ai dit moi, j'ai marché à quatre pattes, j'ai couru dans la direction d'une chose, j'ai fui quelque chose, je me suis redressée, je me suis secouée, je suis devenue une boule de nerfs, j'ai marché, j'ai formé un angle presque droit avec la terre, j'ai sauté, j'ai vaincu la gravitation, j'ai appris à ne plus souiller mes langes, j'ai appris à maîtriser mon corps, j'ai appris à me dominer. Est-ce que ça vous dit quelque chose ?
Oui, bien sûr. Mais j'ai un trou de mémoire épouvantable. C'est dans quoi, ça ?
C'est Introspection de Peter Handke.
Bien sûr, c'est Introspection.
Je croyais que c'était Thomas Pesquet, moi.
C'est Peter Handke. Justement, dont Gérard Depardieu, on parlait de Depardieu, parle très très bien de Peter Handke, ce qui est un auteur majeur. On a eu la chance avec Laurence, je l'avais mis en scène dans Introspection de Peter Handke à la Maison de la Poésie, et elle l'a joué pas mal de fois et elle était extraordinaire là-dedans, et on a eu la chance de dîner un soir avec Peter Handke. Croyez-moi, là vraiment c'était très très impressionnant, la lucidité de cet homme sur le monde, sur la politique, sur tous les sujets, la générosité de cet homme, l'écoute de cet homme, il est extrêmement impressionnant, en plus d'être un immense auteur. Moi c'était un très grand moment avec Laurence d'avoir fait ça, la femme que j'aime en plus, et qui est une immense comédienne.
Et vous avez mis en scène ce texte, ainsi que le Barbier de Séville de Beaumarchais.
Ouais,
ouais, mais est-ce que c'est un exercice qui vous tente à nouveau de
bien sûr,
scène.
Bien sûr, j'aimerais beaucoup. Ouais,
et quel répertoire
Il faut trouver le texte. J'aime les auteurs vivants. Enfin, parler du Barbier de Séville, c'est pas forcément. Mais introspection, Anneke est bien vivant. Et puis, j'ai d'autres projets d'auteurs vivants, comme Rémi Devos aussi, qui est un auteur que j'aime beaucoup. Mais bon, faut trouver le théâtre, faut trouver le temps, l'occasion, ouais. La distribution. C'est pas si simple, mais j'ai très envie, bien sûr, très très envie de remettre en scène.
Et je finis avec un cadeau pour vous, Michel. Je vous offre Un été avec Machiavel de Patrick Boucheron aux éditions Équateur Parallèle en collaboration avec France Inter, parce que vous parliez de Anneke et de sa lucidité. Machiavel, on va le faire passer. Machiavel est surtout connu pour sa manière de dominer, de gérer à distance, mais il faisait preuve d'une lucidité assez accrue, d'une acuité sur la lecture du monde. Et là, c'est le personnage qui vous est décrypté à travers sa vie et ses prises de position aussi, qui sont souvent méconnues.
Mmh. Il soutient Poutine, notamment, lui.
Non, mais arrêtez. Mais j'aime bien Poutine, j'ose le dire.
Bah oui,
j'aime bien. Il faut attendre. Bah voilà, tombe-moi dessus, je suis prêt.
Mais non,
on n'a pas le temps, Michel. On n'a pas le temps, sinon.
Mais j'aime bien, voilà.
L'hôtel du libre-échange, c'est à la Comédie-Française jusqu'au 25 juillet avec cette représentation exceptionnelle le 14 juillet où, qui sera gratuite. On parlait de Cyrano de Bergerac tout à l'heure avec Leïla. La mise en scène est de Denis Podalydès. Vous la jouez jusqu'au 20 juillet, salle Richelieu. Et le 4 juillet, la pièce sera retransmise en direct dans plus de 300 salles de cinéma.
Oui, oui,
ça, c'est encore un exercice.
Oui, c'est Pathé, oui, qu'on va dans le circuit de distribution chez Pathé. Oui, qui fait ça, oui, c'est, on va avoir bien les pétoches. Je pense que c'est du direct. Là, c'est du vrai direct.
Du vrai direct.
Du vrai, de vrai.
Vous incarnez également un comédien juge dans La Résistible Ascension d'Arturo Huy de Brecht. Ça, c'est aussi à la salle Richelieu en alternance. Et puis, L'Assiette de mon voisin, le film est sorti hier, film que vous aviez tourné il y a
quelques années.
Donc, le film sorti hier, c'est signé David Merlin Dufay. On vous retrouvera dans Knock, ça sortira le 18 octobre aux côtés d'Omar Sy, d'Anna Girardot et de nombreux autres comédiens. Là, on retrouve du Jouvet parce que évidemment, il a marqué l'histoire de Knock dans son interprétation. Et vous êtes également dans French Touch, une série où vous retrouvez président de la République.
Oui, par intérim. OCS. OCS, qui devrait passer à l'automne. Ça, c'était très chouette. Président de la République, donc j'ai pu parler de
et rencontrer Poutine.
En tout cas, on l'a compris, les heures de sommeil sont là pour vous requinquer parce qu'un planning extrêmement chargé et avec à chaque fois des rôles puissants et extrêmement bien interprétés par Michel Villermoz. Des excuses à présenter, Daniel Morin.
Oui, ça tombe bien, c'est vrai que ce planning excessivement chargé provoque des désolés pour Jacques Audiard, les frères Dardenne et tout autre réalisateur qui comptait proposer un rôle à Michel. Il n'est pas dispo, planning très chargé, déjà 12 pièces et on l'a appris ici, un porno en préparation. Donc voilà, c'est pas comme ça. Désolé pour Michel qui nous a bouleversé par la déclaration qu'il a faite à sa femme. Je peux vous le dire, Michel, on l'a eu au téléphone, à la pause, très touché également, mais sa décision est prise. Elle se barre avec les frères Podalydès. Désolé en fait pour tous nos auditeurs souffrant d'arthrite, et ils sont nombreux et qui ont essayé, sur les conseils d'Alison, de se sortir les doigts, ils sont restés coincés. Pas de panique les amis, on a vos adresses, on vous envoie un plombier.
Merci Daniel Morin, merci Michel Villermoz.
Merci à vous.
Merci et bravo pour tout ce que vous faites. Demain nous recevrons Clotilde M et Fabrice Gobert pour un film qui sortira mercredi prochain le 21 juin et qui s'appelle K.O. Bonne
Super
journée
film.